Change. en temps universel.
RFI Matin, Andréane Mélard.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Ce matin, RFI vous fait entendre des témoignages exceptionnels. Igor, un russe de 25 ans, a refusé de combattre en Ukraine, ou encore Vassili, russe lui aussi, poursuivi pour avoir critiqué les opérations militaires russes. Une ligne rouge franchie dans les deux cas, des risques immenses. RFI vous fait entendre leur voix ce matin. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane Mélard, bonjour à toutes et à tous.
À la une également ce matin, 3 mois de guerre en Iran.
Guerre sans cesse. Être sur pause depuis le début du mois d'avril. Un accord est toujours espéré avec les États-Unis. Mais cette nuit, les frappes ont repris, des tirs américains dans le sud de l'Iran. Téhéran a répliqué. On fait le point sur les événements de la nuit avec Siavosh Ghazi. Une vague de chaleur inonde l'Europe. Température record encore en Angleterre, en Italie et en France, où de nouveaux départements ont été placés en vigilance orange. Ce n'était jamais arrivé aussi tôt dans l'année. Le mois de mai n'a jamais été aussi chaud dans l'Hexagone et les mal logés sont les plus exposés. Nous serons aussi dans ce journal au Sénégal, où les milieux financiers sont inquiets face à l'instabilité politique. À Taïwan, où la production de drones explose. Et à Roland-Garros, où la reine Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, est de retour sur les cours aujourd'hui. Une reine qui cherche une première couronne sur la terre battue et qui a porté d'inestimables bijoux lors de sa première sortie, ce qui n'a pas manqué de faire parler, vous l'entendrez.
De guerre au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran sont sur un fil.
Ce 28 mai n'a plus rien à voir avec la guerre ouverte du 28 février dernier, lorsque l'ayatollah Ali Khamenei avait été tué lors des bombardements conjoints des États-Unis et d'Israël sur Téhéran. Mais ce 28 mai est tout de même marqué par de nouveaux échanges de tirs, parmi les plus importants depuis le cessez-le-feu décrété le 8 avril dernier. Le deuxième épisode de ce type de cette semaine, les États-Unis ont frappé une base dans le sud de l'Iran. Téhéran a répliqué et on fait le point sur les opérations de la nuit avec notre correspondant Siavosh Ghazi. Siavosh, un accord est toujours d'actualité, toujours espéré entre l'Iran et les États-Unis, même si de nouveaux tirs sont à signaler.
Tout d'abord, 4 navires américains ont tenté de traverser le détroit d'Hormuz en ayant éteint leur transpondeur. Donc il y a eu des tirs d'avertissement des gardiens de la Révolution et ces navires ont été contraints de rebrousser chemin et retourner donc dans le golfe Persique. Ensuite, il y a eu le tir américain contre une cible près de l'aéroport de Bandar Abbas. Et en réaction, les gardiens de la Révolution ont lancé des missiles et des drones contre une base américaine, sans doute au Koweït, en affirmant que si jamais les Américains menaçaient et frappaient de nouveau le territoire iranien, la riposte des gardiens de la Révolution sera encore plus dure. C'est un avertissement très clair de la part des gardiens de la Révolution qui disent qu'ils contrôlent le détroit d'Hormuz et qu'aucun navire n'a le droit de traverser ce détroit sans l'autorisation des gardiens de la Révolution.
Merci beaucoup Siavosh Ghazi, correspondant de RFI. En Iran, au Liban, Israël bombarde de tirs la grande ville du sud du pays. Cela fait suite à des ordres d'évacuation. L'armée de l'État hébreu qui affirme viser des infrastructures du Hezbollah dans cette région qu'elle considère comme une zone de combat. Israël intensifie ses opérations terrestres et aériennes au Liban. Le Hezbollah fait état de combat direct en dépit du cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. Une escalade qui intervient alors que le Liban et Israël ont rendez-vous au Pentagone ce vendredi avant une nouvelle session de négociation à venir les 2 et 3 juin.
Le coup de chaud continue sur le vieux continent.
En Angleterre, en Italie et en France, surtout Andréane, jamais l'alerte orange canicule n'avait été déclenchée lors d'un mois de mai dans l'Hexagone. C'est désormais chose faite, niveau de vigilance qui concernait d'abord 8 départements hier, puis 13 et finalement 17 ce jeudi. Niveau d'alerte relevé pour les départements d'Île-de-France, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit lui présider une réunion interministérielle pour préparer les services de l'État français avant l'été à venir. Les températures atteindront 35 degrés aujourd'hui dans la région parisienne, avec des pointes à 38 et 39 dans le sud-est de la France. En première ligne face à cet épisode exceptionnel de forte chaleur, ce que l'on appelle les mal logés vivant dans des bouilloires thermiques. Exemple à Aubervilliers, au nord de Paris, dans ces logements devenus invivables. Reportage de Juliette Pietraszewski.
En fait, on reste dans le noir pour essayer d'avoir un petit peu de fraîcheur.
Rideau fermé dans toutes les pièces à cause de l'absence de volets. Michel Audrin, retraité, tente le tout pour préserver son appartement de la chaleur.
Chaque matin, j'ai un rituel donc, que je vais faire avec vous. J'arrose complètement le béton du balcon. Voilà, et on sent un peu de fraîcheur quand même. Ouais. Mais ça va pas durer, quoi. Et puis toute la journée, on peut pas faire ça, puisqu'il fait trop chaud. Le salon, par exemple, on a 32, 33 degrés en plein après-midi, quoi. J'ai des malaises, on sait pas comment se mettre.
Dans sa passoire thermique, Michèle Audrin, présidente du syndicat Locataires Ensemble, se considère désormais comme une victime du dérèglement climatique.
J'habite ici depuis 85, et j'ai vraiment ressenti ce réchauffement depuis 6 ans à peu près. Donc l'été, je suis obligée de partir chez mes enfants. On subit quand même d'une maltraitance qu'on ne devrait pas subir.
Cette précarité énergétique d'été est aussi dénoncée par Meider Olivier, chargée de plaidoyer climat à la Fondation pour le logement.
On est sur un phénomène d'injustice sociale. C'est vraiment une urgence sanitaire. Le temps nous rattrape. En 2026, on a déjà une canicule au mois de mai. Donc il faut... pour nous, qu'il y ait une adaptation spécifique à la chaleur qui soit faite des logements, qu'on n'attende pas uniquement la rénovation énergétique.
L'adaptation au changement climatique nécessite donc une transformation profonde de la politique du logement, rappelle la Fondation.
La Fondation pour le logement qui a annoncé également se joindre à une action d'un collectif citoyen contre l'État français pour obliger ce dernier à renforcer ses mesures contre le dérèglement climatique, notamment en faveur des mal logés. Et puis à noter que l'Europe n'est pas la seule région du monde touchée par cette vague de chaleur précoce. L'Inde également l'a subi de plein fouet selon l'ONU. Les Nations Unies qui prévoient par ailleurs que les températures mondiales devraient se maintenir à des niveaux records sur la période 2026-2030.
RFI 5h06 à Dakar et en temps universel, Dakar où les secousses de la vie politique sénégalaise font trembler les milieux financiers.
Et la fracture du couple Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko inquiète. Ousmane Sonko désormais président de l'Assemblée nationale, alors que le nouveau Premier ministre Amadou Alamani Nouslo n'a pour l'instant pas encore constitué son gouvernement, ce qui ne rassure pas, mais alors pas du tout les banques d'investissement qui craignent que le Sénégal ne se retrouve en défaut de paiement pour sa dette extérieure. Léa Lisa Vesteroff.
L'analyse de l'agence de notation ivoirienne Bloomfield est sans appel, évoquant dans un communiqué la détérioration récente de l'environnement politique au Sénégal. L'institution financière évoque des risques de paralysie dans le fonctionnement des institutions dans un contexte de fortes contraintes financières, allusion à la dette publique de 132% du PIB. Les risques pesant sur la capacité de l'État à honorer dans les délais l'ensemble de ses engagements financiers se sont significativement renforcés, affirme encore l'agence financière. En clair, le risque de défaut de paiement de sa dette a augmenté pour le Sénégal. Dans ce contexte, le chef de l'État doit d'autant plus rapidement nommer un gouvernement et obtenir un soutien à l'Assemblée nationale pour donner des orientations économiques et financières claires. Tout blocage serait fatal, assure un analyste financier. En jeu également la reprise d'un éventuel programme avec le Fonds monétaire international, possible uniquement s'il y a une équipe gouvernementale en place. Le Sénégal qui a d'énormes échéances financières qui l'attendent, Dakar doit décaisser 1200 milliards de francs CFA entre fin juin et juillet pour rembourser le service de sa dette, l'équivalent de 3 mois de recettes budgétaires de l'État. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
RFI, la radio du monde.
La production de drones en plein boom à Taïwan.
Qui a bien compris que les aéronefs avaient le vent en poupe, Andréane, des drones qui ne coûtent pas cher et qui sont produits en masse. Taïwan qui a vendu plus de 180 000 drones depuis le début de l'année 2026, selon les statistiques officielles. L'archipel se positionne et compte bien devenir l'un des leaders du marché, Claudia Bertram.
20 fois plus de drones exportés depuis le début de l'année que l'an passé sur la même période. Les principaux acheteurs, la République tchèque et la Pologne. La plupart des drones sont ensuite réexportés vers l'Ukraine. Face à la menace de la Chine qui revendique l'île et n'exclut pas de la prendre par la force, Taïwan prépare une économie de guerre, selon Hugo Tierney, docteur en histoire militaire de l'EPHE et chercheur à l'IRSEM.
Dans la pensée stratégique taïwanaise actuelle, les drones, ils vont permettre de compenser partiellement cette infériorité numérique par rapport à la Chine, de maintenir les capacités de l'armée taïwanaise après les premières frappes chinoises, et en fait de cette façon-là d'augmenter le coût d'une opération chinoise. Donc ça doit avoir un effet sur la dissuasion.
Mais Taipei fait face à des blocages politiques intérieurs sur le budget de la défense. Un paradoxe pour le spécialiste.
Taïwan essaye de développer une industrie de drones, mais continue in fine, à cause des équilibres politiques locaux, à favoriser des achats américains au détriment d'une montée en puissance industrielle locale.
D'où l'intérêt de se tourner vers les marchés occidentaux. L'archipel revendique des drones non rouges, comprendre sans matériaux chinois. Une capacité à nuancer selon l'expert. Malgré ses atouts technologiques, Taïwan fait face à de nombreux concurrents sur le marché mondial.
Claudia Bertram du service international de RFI.
En France, la ministre de l'Agriculture épinglée et recadrée.
Par le Premier ministre lui-même, Sébastien Lecornu, qui a appelé Annie Genevard après sa participation. Un déjeuner polémique organisé par l'Institut de l'Espérance, un groupe de réflexion créé par le milliardaire Vincent Bolloré, auquel participaient de nombreuses personnalités d'extrême droite et ultra-conservatrices, comme le nouveau conseiller économique du Rassemblement National ou encore une propagandiste du Kremlin. Mais qu'est donc venue faire ici la ministre de l'Agriculture ? Réponse avec Charlotte Tourien-Tomaca.
Parmi les invités figuraient notamment des soutiens de l'Union des droites, des figures de la chaîne CNews, ainsi que d'anciens relais de médias pro-russes comme l'ancienne directrice de Russia Today, Xenia Fedorova. Une présence jugée embarrassante pour le gouvernement alors que l'exécutif tente d'éviter toute ambiguïté avec l'extrême droite. L'entourage d'Annie Genevard, proche de Laurent Wauquiez, affirme qu'elle ignorait la composition exacte des invités et qu'il ne s'agissait ni d'un soutien politique ni d'une caution idéologique. Sa collègue porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, tente de minimiser.
Ça n'avait pas vocation à porter un message politique particulier, elle le fait à titre individuel, elle le fait à titre personnel.
Pour Philippe Juvin, député LR, rien d'anormal dans cette rencontre.
Que les ministres aillent voir les opérateurs économiques du pays, moi ça me paraît indispensable.
L'insoumis Thomas Porte est lui vent debout contre Annie Genevard.
On sait que Vincent Bolloré a un agenda politique et tout ce qu'il fait à l'approche de l'élection présidentielle pour son objectif installer l'extrême droite, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella au pouvoir.
La ministre ne devrait pas être à cette table-là.
Pour Romain Eskenazi, député PS, la présence de la ministre ne passe pas non plus.
Nous débattons en ce moment à l'Assemblée nationale d'une loi d'urgence agricole. Je ne sais pas si c'était tellement sa place.
À moins d'un an de la présidentielle, la polémique ravive les interrogations sur les passerelles entre une partie de la droite et les réseaux d'influence gravitant autour de Vincent Bolloré, proche de l'extrême droite.
Charlotte Urien-Tomaca du service politique de RFI. Et puis toujours en France, la fin du procès en appel du financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a clamé son innocence hier. Il a assuré qu'il n'avait jamais trahi la confiance des Français lors de son ultime prise de parole. La décision finale sera rendue le 30 novembre prochain. Nicolas Sarkozy, 71 ans, qui avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs en première instance.
Enfin, Martin, les bijoux de la discorde de Roland-Garros.
Portée par la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, la Biélorusse, de retour sur les cours aujourd'hui pour disputer son second tour sur le cours central. Elle fera face tout à l'heure à la Française Elsa Jacquemot. Arina Sabalenka qui a marqué les esprits lors de son premier match, non pas par ses performances, mais par ses bijoux hors de prix qui font jaser. Porte d'Auteuil, Eric Mamrut.
Un collier, des boucles d'oreilles d'une valeur de 100 000 dollars. Déplacé pour certains, car la Biélorusse est l'une des leaders de la fronde des joueurs désireux d'être mieux payés sur les tournois du Grand Chelem. Un procès qui n'a pas lieu d'être selon Arina Sabalenka.
Je ne vois vraiment pas comment on peut mélanger ces deux sujets tellement opposés. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas pour moi que je réclame des gains plus importants, mais pour les joueurs moins bien classés qui galèrent sur le circuit. Et puis vous savez, j'aime être à la mode sur...
Lily, faites-vous une barmaid poétique dans un vieux bar de l'Est bleu de fumée, où l'ivrognerie était douce et romantique, où des loups de mer et des gamins pâles vous aimaient. Dignement tendre avec tous, étiez-vous plus tendre pour un craintif Jack ou Jim aux yeux suppliants qui vous rêva fait des bois roses de novembre. Grave of Paul Lilydale. pensée consomptive et pensive du contrebandier ou du jeune clergyman. Non, l'air qui vous pleure est trop sauvagement triste, trop sincèrement naïf sous les